voix lue. Une émission de la rédaction de Canal Academy. On retrouve Hélène Renard.
Madame, Monsieur, bonjour. Bonjour Fernand Guillot.
Bonjour ma chère Hélène.
Pour découvrir notre auteur caché, le 8e de la série, il va vous falloir être très attentif aux indices biographiques que je vais vous donner, car, avouons-le Fernand, ce n'est pas un auteur très connu, même s'il fut membre de l'Académie française. Mais nous aurons ensemble le plaisir de le découvrir, c'est un des charmes de Canal Academy. Vous connaissez la règle du jeu, je vous donne 10 indices biographiques. Fernand Guillot vous lit 10 lignes d'extrait, ou un peu plus, et en moins de 10 minutes, vous allez trouver de qui il s'agit. Vous êtes prêts ? Commençons par ce premier indice. Notre auteur se prénomme François. Il est l'un des deux disciples célèbres de Malherbe, lequel se prénommait également François. Ce n'est donc pas de Malherbe qu'il s'agit. Voilà déjà une précision indispensable. Et pour cause, Malherbe n'était pas académicien, puisque à sa mort en 1628, l'Académie n'était pas encore fondée. Elle ne le sera, comme vous le savez, qu'en 1635. Alors notre auteur caché appartient donc au début du XVIIe siècle, puisqu'il est né en 1582 à Toulouse et qu'il accompagne comme secrétaire, lorsqu'elle remonte à Paris en 1605, la reine Marguerite de Valois, la fameuse reine Margot, épouse que répudiera Henri IV. Alors, vous avez déjà situé le siècle. Deuxième indice, et autant vous le dire tout de suite, l'orthographe du nom de notre auteur caché pose un problème. D'aucuns l'écrivent avec un I, d'autres avec un Y, qu'en dit l'Académie. Elle fait une réponse de Normand, car sur son site, elle écrit son nom dans la lettre M avec un Y, mais elle explique tout de suite qu'elle va adopter l'orthographe avec un I, parce qu'il existe une signature authentifiée de cet auteur caché, ainsi orthographiée. Alors je vous le concède, que son nom s'écrive d'une manière ou d'une autre, ce n'est pas cela qui va vous le faire découvrir aisément. Passons au troisième indice. Notre auteur caché fut en son temps un écrivain apprécié par ses sonnets, ses épigrammes, ses odes, ses stances et ses rondeaux. Il fréquentait à Paris l'hôtel Rambouillet, l'un des plus fameux salons littéraires du début du XVIIe siècle. Quatrième indice, car je suis obligée de donner beaucoup d'indices avant de laisser la parole à Fernand. Notre auteur compte parmi les tout premiers académiciens de l'Académie française, laquelle fut fondée, je vous le rappelle, par lettre patente du roi Louis XIII en 1635. Or, un autre académicien de cette même époque, Paul Pélisson, qui a rédigé une histoire de l'Académie française depuis son établissement jusqu'en 1652, cite notre auteur parmi les premiers membres de l'Académie en 1635, quand l'Académie est créée. Il est âgé de 53 ans et il va siéger 11 années, puisqu'il meurt en 1646 à l'âge de 64 ans. Mais durant ces 11 années, si on en croit sa biographie sur le site de l'Académie, il la fréquenta peu, ne fut guère assidu aux séances et même ne se priva pas de médire de cette Académie naissante. Cinquième indice, mais puisqu'il fut reconnu comme l'un des grands écrivains de son époque, penchons-nous sur son œuvre littéraire. Notre auteur caché a essentiellement rédigé des vers. Paul Pélisson formule ainsi son jugement. C'est de ses vers qu'il a tiré sa plus grande gloire, comme il le prétendait bien aussi, et véritablement, il faut avouer qu'ils ont une facilité, une clarté, une élégance et un certain tour que peu de personnes sont capables d'imiter. Et Voltaire lui-même, un siècle plus tard, ne désavouera pas le talent de notre auteur caché. On peut le compter, dit-il, parmi ceux qui ont annoncé le siècle de Louis XIV, il reste de lui un assez grand nombre de vers heureux. Sixième indice. Alors, pour juger de ces vers heureux, écoutons d'abord cette satire de notre auteur caché, lue par Fernand Guillot.
Pierre, qui durant sa jeunesse fut un renommé savetier, est superbe de sa richesse et honteux de son vieux métier. Ce fortuné marchand de bottes possède un parc près de chez moi, dont les fontaines et les grottes sont dignes des maisons du roi. Je suis confus lorsque je pense qu'il y fait creuser un canal dont la magnifique dépense étonnerait le cardinal. Son luxe n'est pas imitable. Il dépeuple l'air et les eaux pour faire que sa bonne table soit le pays des bons morceaux. Il ronfle sur des sachets d'ambre. Tout son grand hôtel est paré et n'a bassin ni peau de chambre qui ne soit de vermeil doré. Suis-je pas une grosse bête de travailler soir et matin à faire de ma pauvre tête une boutique de latin ? Mon père a causé ma ruine pour avoir mis entre mes mains la rhétorique et la doctrine des vieux Grecs et des vieux Romains. Muse, ne t'en déplaise aux grands hommes que vous montrez à l'univers. Il vaut mieux, au siècle où nous sommes, faire des bottes que des vers.
Voici en 8 strophes le portrait d'un nouveau riche, d'un parvenu, un portrait qui ne manque pas, reconnaissez-le, de verve, de verdeur et même de bonne humeur et qui n'a rien perdu de son actualité, qui n'est pas sans annoncer les futurs portraits du grand Labruyère. Alors nous en sommes au 7e indice et à ce stade, vous avez donc situé notre auteur caché dans son époque, le 17e siècle. Vous savez qu'il écrivit des vers, qu'il fut l'un des tout premiers académiciens, c'est déjà pas si mal. Présentons maintenant un autre aspect sympathique de notre auteur. Il fut épris durant 40 ans d'une seule et unique dame à laquelle il donne, selon la mode, le prénom grec de Chloris, laquelle eut le mauvais goût de lui préférer un mari très riche. Mais à 62 ans, notre auteur ne désespère pas de réaliser son rêve. Chloris est devenue veuve, elle reste toujours belle malgré les ans et il lui exprime sa flamme. En vers, bien entendu.
Chloris, que dans mon cœur j'ai si longtemps servi et que ma passion montre à tout l'univers, ne veux-tu pas changer le destin de ma vie et donner de beaux jours à mes derniers hivers ? N'oppose plus ton deuil au bonheur où j'aspire. Ton visage est-il fait pour demeurer voilé ? Sors de ta nuit funèbre et permets que j'admire les divines clartés des yeux qui m'ont brûlé. Ce n'est pas d'aujourd'hui que je suis ta conquête. 8 lustres ont suivi le jour que tu me pris, et j'ai fidèlement aimé ta belle tête sous des cheveux châtains et sous des cheveux gris. C'est de tes jeunes yeux que mon ardeur est née, c'est de leurs premiers traits que je fus abattu. Mais tant que tu brûlas du flambeau d'Hyménée, mon amour se cacha pour plaire à ta vertu.
Avouez que c'est touchant cet amour, hein, Fernand, joliment exprimé, et que pour une femme, je trouve, cela offre le réconfort de penser que l'âge n'ôte rien à la beauté et à la séduction. Et notre auteur a décidément du talent. Et il est bien injuste qu'il soit tombé dans l'oubli. Ce sonnet intitulé « La belle vieille » est l'un de ceux qui, heureusement, sont devenus célèbres. 8e indice, mais l'âge est là, la vieillesse approche, et notre auteur, là de la vie mondaine, tant à Paris qu'à Rome, où il vécut plusieurs années, comme secrétaire d'ambassade. Mais l'âge est là, et la vieillesse approche, et notre auteur, là de la vie mondaine, tant à Paris qu'à Rome, où il vécut plusieurs années comme secrétaire d'ambassade, se retire dans ses terres à s'insérer dans le Lot. Là, il va composer quelques-uns de ses plus beaux poèmes, et je vous propose d'écouter celui-ci qui est émouvant et qui, notons-le, renferme dans son lyrisme de beaux accents mystiques.
Mon âme, il faut partir. Ma vigueur est passée. Mon dernier jour est dessus l'horizon. Tu crains ta liberté. Quoi, n'es-tu pas lassé d'avoir souffert 60 ans de prison ? Tes désordres sont grands, tes vertus sont petites. Parmi tes maux, on trouve peu de bien. Mais si le bon Jésus te donne ses mérites, espère tout et n'appréhende rien. Mon âme, repens-toi d'avoir aimé le monde. Et de mes yeux fait la source d'une onde qui touche de pitié le monarque des rois. Que tu serais courageuse et ravie si j'avais soupiré durant toute ma vie dans le désert sous l'ombre de la croix. »
Neuvième indice, je vous ai précisé au début que notre auteur caché était l'un des deux disciples célèbres, encore qu'oublié de nos jours, de Malherbe. Alors voici le nom du second, Honorat de Bueil, marquis de Racan. Il fut lui aussi élu à l'Académie française dans le courant de l'année 1634 et ce fut donc un confrère de notre auteur caché. Le pauvre Racan était poète, certes, mais affligé d'un bégaiement qui l'obligeait à faire lire ses discours par des tiers. Bref, Racan et notre auteur caché se connaissaient, se côtoyaient, se concurrençaient peut-être, mais à cette époque, tout un chacun s'exprimait en vers. Alors voici le dernier indice, ultime, pour pouvoir trouver le nom de notre auteur caché. Lorsqu'il mourut, le 28 décembre 1646, son siège à l'Académie fut déclaré vacant, comme il se doit, et quelques mois plus tard, c'est le très glorieux Pierre Corneille qui lui succède en 1647. Avez-vous trouvé notre auteur caché ? Si oui, bravo, car il n'était pas facile. Il s'agissait de François Ménard. Et si vous ne l'avez pas trouvé, reportez-vous au site de notre radio, canalacademie.com, et dans le moteur de recherche, tapez « Auteur caché numéro 8 ». Et merci au comédien Fernand Guillot, qui a bien voulu lire les vers de notre auteur caché.